Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, l'actu dans la poche, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs du territoire. Je m'appelle Jean-Berthelot de Lagleté et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion de l'équipe Podcasting.
Aujourd'hui dans Podcasting, nous prenons des nouvelles des Girondins de Bordeaux. C'est une carte blanche que nous enregistrons un dimanche 1er mai à l'issue du match Bordeaux-Nice. Nous sommes d'ailleurs dans le stade Matmut Atlantique. Et pour faire un point sur cette équipe, nous sommes avec Jean-Berthelot de Lagleté et Laurent Brun. Bonjour.
Bonjour Juliette.
Bonjour.
Jean-Berthelot, vous êtes la voix des Girondins pour Europe 1 et le cofondateur de Podcasting. Laurent Brun, vous êtes vous journaliste spécialiste de football et plus particulièrement des Girondins. Vous avez d'ailleurs écrit 4 ouvrages à ce sujet, dont le dernier, L'Escure insolite, que nous avions évoqué dans Podcasting. Avant de débriefer le match de ce soir, faisons le point pour les Girondins de Bordeaux. 35e journée de Ligue 1. Il reste 3 matchs avant la fin de la saison et les Bordelais sont à la 19e place du classement. On peut dire que la situation est compliquée ?
Elle est catastrophique. C'est encore jouable parce que mathématiquement, ce n'est pas terminé, mais elle est catastrophique. Et moi, je dirais que ça fait 3 ans qu'elle est catastrophique. Voilà, parce que les Girondins sont vraiment à la peine à tous les niveaux, dans tous les compartiments du jeu. Et c'est encore jouable, alors il faut y croire. Mais mentalement, je pense qu'ils sont vraiment touchés.
Non, il y a effectivement 4 points d'écart, mais il y a aussi une différence de but défavorable pour les Girondins. C'est-à-dire qu'ils ont 6 buts d'écart par rapport à Saint-Etienne. Ça veut dire qu'il leur faut marquer 5 points de plus que Saint-Etienne sur les 3 dernières journées. Il y a donc 9 points en jeu. Ça paraît effectivement très très compliqué.
Pour nos auditeurs et auditrices qui ne sont pas spécialistes du football et de la Ligue 1, quels sont les scénarios encore possibles pour cette fin de saison ?
Mais en fait, les scénarios, ils sont assez simples. C'est-à-dire que Saint-Etienne a 3 matchs à jouer, Bordeaux aussi. Et il faut, par exemple, que Saint-Etienne fasse une victoire et un nul pendant que Bordeaux gagne ses 3 derniers matchs. Bon, ça paraît très peu probable, mais voilà. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que pour que Bordeaux puisse espérer être barragiste, hein, on parle que de barragiste, parce que se sauver directement, je crois que c'est même plus possible, ou en tout cas, c'est de la science-fiction. Pour être donc barragiste, eh bien, tout simplement, il leur faut marquer 5 points de plus que les Stéphanois sur la même période.
Et sinon, c'est la Ligue 2 ?
Alors sinon, c'est la Ligue 2, et peut-être dans le meilleur des cas, parce que si jamais les Girondins ne sont rétrogradés sportivement, mais qu'au niveau financier, puisqu'il y a quand même un passif, hein, quand même, bon, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est assez lourd, qu'ils sont réprimandés par le gendarme financier du football français, la DNCG, et qu'ils ne peuvent pas faire face à leurs obligations, ils peuvent aussi, dans le pire des scénarios, perdre le statut professionnel, et basculer en National, ou voire quand même en National 3, ce qui est, pour info, quand même le niveau de l'équipe B des Girondins de Bordeaux actuellement. Voilà, donc ça peut être catastrophique pour le club.
C'est ce qu'a connu, par exemple, dans le passé, un club comme Strasbourg, qui a su se relever, mais tous les clubs n'ont pas eu le même destin. Il y a aussi des grands noms du foot français qui ont disparu après de tels départs de l'élite.
Nous allons revenir sur les conséquences de ces scénarios, mais venons-en à ce dernier match donc, qui a été joué dimanche 1er mai. Le score 1-0 pour Nice, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ce match ?
Bah pour moi, les leçons, c'est que quand ça veut pas, ça veut pas, quoi. C'est-à-dire que absolument, enfin beaucoup de choses en tout cas ont été contre Bordeaux. Il y a d'abord ce but, c'est vrai, qui est un peu donné par les Girondins de Bordeaux, hein. C'est malencontreusement un contre qui arrive dans les pieds d'Andy Delors, mais c'est toujours comme ça. De toute façon, quand on est 12e, 19e ou 20e, les choses tournent toujours dans le mauvais sens. De la même manière, il y a quand même un pénalty qui, moi, me paraît incontestable en faveur des Girondins de Bordeaux qui est oublié. On voit quand même les deux mains du Niçois qui attrape Onana. L'enseignement, c'est que ben, vraiment, il faudra faire preuve d'un caractère énorme parce que, en tout cas, les circonstances ne seront pas favorables à Bordeaux. Elles ne le sont pas depuis quelques matchs déjà, mais d'ici la fin de la saison, ça n'a pas l'air d'être parti pour s'arranger.
Vous savez, quand vous avez votre premier corner à 20 minutes de la fin, qui a quasiment aucune action dangereuse, il y a un tir cadré en première période, vous ne pouvez pas espérer mieux. Bordeaux prend beaucoup de buts, donc défensivement est en difficulté, mais Bordeaux a parfois aussi du mal en ont marqué. Et on a senti, alors le coach a eu beau dire, David Guillon, qu'il n'y avait pas d'abattement, on a senti quand même des joueurs un peu résignés et un peu comme le public aussi, fidèles, toujours fidèles, qui encouragent, mais qui, je crois, ne se leurrent plus.
Ouais, c'était flagrant ce côté découragé parce qu'on a vu beaucoup de joueurs habitués à prendre des décisions très vite. Je pense notamment à Adli, qui, quand même, est plutôt bon dans la passe presque sans contrôle ou en tout cas rapide, qui ce soir a pris beaucoup de mauvaises décisions. Et puis, très souvent, on voyait qu'il y avait des décalages qui étaient possibles et qu'il y avait ce petit temps de latence, cette petite 1, 2, 3 secondes parfois, qui faisait que on trouvait pas la passe et que l'appel de Wang notamment se perdait. On sent aussi à ces détails-là qui n'en sont pas que c'est une équipe évidemment qui est en crise de confiance absolue. Et ce soir, ça l'a encore confirmé. Pour moi, c'est l'un des matchs les plus flagrants sur cette absence de confiance depuis pas mal de mois.
C'est effectivement ce que disent et l'entraîneur et par exemple Gérard Lopez, le président du club, à la sortie du match. Le message qu'ils font passer quasiment à chaque fois depuis quelques semaines, c'est on a les qualités, on a l'équipe, mais on n'a pas le mental. Le mental, ça suffit à expliquer ces matchs ?
Non, moi je pense qu'il n'y a ni le mental ni le talent. Voilà, c'est juste mon humble avis, mais pour quand même suivre tous les matchs, et il y a parfois un peu de talent, évidemment, ils sont joueurs professionnels, pas nous, mais non, je pense que c'est pas le niveau de la Ligue 1, tout simplement. Et vous savez, quand vous perdez en Coupe de France un match face à une équipe hiérarchiquement inférieure, bon, c'est un peu la loterie, ça fait appel à d'autres valeurs, c'est sur un match. Quand vous êtes sur une saison régulière, et depuis 2-3 saisons que vous flirtez entre la 15e et la 20e place, c'est que c'est plus un hasard. La saison régulière, elle sanctionne justement les mois performance ou les bonnes, hein, quand vous êtes habitué à jouer les places d'honneur. Donc là, il n'y a pas de hasard. Je ne suis pas défaitiste, mais j'essaie d'être le plus objectif possible. Ce n'est pas facile avec les Girondins de Bordeaux depuis quelques saisons. Mais je pense qu'à un moment donné, on a ce qu'on mérite. On l'a vu avec Toulouse aussi, qui a flirté pendant 2-3 saisons avec la relégation, qui est tombé en Ligue 2, qui a réussi à remonter au bout de 2 saisons. Donc, Jean le disait, c'est faisable. Mais au niveau des Girondins, je pense qu'on n'est pas armé pour faire face à cette situation-là.
Ouais, Toulouse d'ailleurs qui avait su renaître après aussi une relégation nationale, hein, avec les pitchouns autour de Christophe Revault au début des années 2000. Moi, je serais peut-être un tout petit peu moins sévère que Laurent sur les qualités intrinsèques, mais je trouve qu'il y a quand même des joueurs qui auraient leur place largement, pour moi, hein, dans le top 10. Voilà, je pense encore une fois à Wang. Mensah a fait un gros match aujourd'hui. Bon, mais j'ai l'impression que c'est quand même ce qui fait le plus défaut, c'est finalement ce collectif. Il n'y a pas, me semble-t-il, d'esprit collectif depuis plusieurs saisons, et ça, je pense que ça tient à beaucoup de choses qui n'ont pas de rapport direct avec les qualités intrinsèques de l'équipe. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end, no safety or surprise. The end, I'll never look into your.
On parle de cette saison, mais aussi des dernières. Ce n'est pas la première crise que connaissent les Girondins actuellement. Il faut expliquer donc que ce club a des difficultés depuis 2-3 ans, déjà sur le plan sportif.
Sur le plan sportif, alors contrairement à ce qui se dit parfois, il y a quand même une bonne formation aux Girondins, il y a quand même des joueurs qui sortent. C'est vrai que, hein, j'ai cet objectif, je vous l'ai dit, hein. Il y a quand même des joueurs qui sortent, on l'a vu sur les 3-4 dernières saisons, notamment les Tchouaméni, Koundé, Laborde, qui eux, s'ils sont vendus en fin de saison actuelle, peuvent aussi ramener de l'argent aux Girondins dans les caisses, puisqu'il y a des clauses dans les contrats, notamment pour la formation. Je pense que à Bordeaux, ça va mal à tous les étages. On a vu le repreneur américain il y a 2 saisons qui a tué le club, quoi, qui a pillé le club. Moi, je n'ai pas peur des mots, hein, je suis désolé, hein, tant pis pour mon procès à venir, mais qui a vraiment mis le club dans une situation catastrophique. Et ce club, il est exsangue, il n'arrive pas à se relever. Alors, il y a eu des repreneurs potentiels, c'est Gérard Lopez qui a emporté la mise. Donc finalement, entre guillemets, il a sauvé le club, ou en tout cas, il a donné un an de sursis au club. Mais aujourd'hui, on voit que Gérard Lopez n'a pas les solutions, n'a pas les leviers et n'a pas forcément fait les bons choix non plus. Et comme je vous l'ai dit, comme l'a dit Jean, il y a des points à prendre. C'est encore jouable pour le barrage, mais je suis très inquiet pour ce club qui est quand même un bastion du football français et une entité, et le seul gros club en région Nouvelle-Aquitaine en Ligue 1.
Justement, vous l'évoquez, il y a aussi des soucis sur le plan financier, sur le plan de la direction. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis pour expliquer un petit peu quels sont les enjeux peut-être au niveau financier ?
Ben, au niveau financier, ce qu'il se passe, c'est que le club a des dettes assez importantes. Alors, on ne connaît pas exactement hein, le montant des dettes, mais sans doute au moins aux alentours de 40-50 millions, hein, probablement. Ce sont des dettes qui ont été creusées notamment par l'actionnaire américain qui a précédé Gérard Lopez. C'est jamais une bonne nouvelle de toute façon quand un fonds d'investissement s'approche d'un club et s'intéresse à un club. Bon, en l'occurrence, pour Bordeaux, ça a été très compliqué. Donc, Bordeaux, ben, est quand même, on peut le dire, n'est pas passé loin de la relégation administrative en saison, à la fin de la saison dernière. C'est peut-être le Covid qui l'a sauvé d'une certaine manière, parce qu'on a tenu compte évidemment du côté de la Direction nationale du contrôle de gestion, la DNCG, le gendarme financier du foot qu'évoquait tout à l'heure Laurent. On a tenu compte de cela. Ça n'empêche que Bordeaux reste un club très endetté. Alors Bordeaux avait fait des projections. Évidemment, Bordeaux tablait sur une place meilleure que celle qu'il occupe actuellement. C'est sur la 8e place. Chaque place hein, en Ligue 1, on le sait, fait gagner de l'argent. Et donc là, s'il termine par exemple 19e, bah, il y a 11 places d'écart. C'est un budget énorme qui leur manque par rapport à ce qu'ils avaient estimé. Donc ces difficultés financières, elles sont réelles, elles sont énormes. Et effectivement, il y a de quoi être très inquiet aussi pour cette raison-là, pour la suite, pour les Girondins de Bordeaux.
Il y a beaucoup de licenciés potentiel dans ce club, il y a énormément d'employés. C'est vrai que les Américains ont créé des postes. Alors d'un côté, c'est bien, mais ce sont des postes qui n'ont pas été confirmés, qui n'ont pas eu de réalisation concrète sur le terrain et qui aujourd'hui, ces gens-là font partie du club et peuvent être vraiment menacés dans 3 semaines. Et ça risque d'être une catastrophe humaine, sociale, financière et peut-être même politique, parce qu'on n'a pas parlé du stade. Mais le stade aussi est vraiment un enjeu crucial, parce que partenariat privé-public et le contribuable bordelais, en cas de rétrogradation, risque de payer le stade.
C'était justement la question, ma question suivante. Ce stade a quand même 40 000 places, elles sont quasiment jamais pleines. Avec un club en Ligue 2, on imagine qu'il va y avoir des difficultés et peut-être même aussi des pénalités que peuvent payer le club ou l'agglomération en cas de relégation.
Oui, c'est une évidence. Hein. Ce stade n'est déjà pas du tout rentable. Il y a eu effectivement un partenariat public-privé, alors sur lequel il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. J'ai moi-même écrit un dossier, et vous aussi, Juliette, on a écrit des dossiers pour les différents médias auxquels on contribue sur le sujet. Mais bon, c'est un peu court pour en parler longuement là, mais ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'une relégation en Ligue 2 coûterait très cher aux contribuables bordelais. Le stade coûte déjà très cher aux contribuables bordelais, d'ailleurs de la métropole hein, bordelaise, mais avec Bordeaux en Ligue 2, ouais, ce serait encore pire. Je crois qu'il faudra un jour qu'on consacre un épisode sans doute entier à ce sujet du stade, parce que, pareil, hein, on n'a pas tellement pour habitude de mâcher nos mots, mais ce qui se passe avec ce stade est un scandale. Et ce qui a été fait à l'époque où on a acté ce partenariat public-privé par l'ancienne municipalité est un scandale aussi. Je ne sais pas s'ils en ont eu conscience ou pas, on aura sans doute l'occasion d'en reparler, mais en tout cas, voilà, il y a aussi de gros problèmes effectivement qui sont liés à ce stade.
Oui, si on peut résumer pour nos auditeurs et auditrices, et c'est pas que le cas du stade de Bordeaux, hein, c'est le cas d'autres stades en France avec une grosse catastrophe au Mans. C'est des stades qui sont globalement surdimensionnés et des partenariats publics-privés qui demandent de l'argent public et qui ne sont pas forcément rentabilisés derrière par les exploitants qui sont des sociétés privées. On va revenir sur les changements qui ont pu être faits au sein des Girondins de Bordeaux, notamment depuis janvier. Un nouvel entraîneur, d'abord David Guillon. Est-ce qu'il y a des améliorations depuis son arrivée? Certes, il ne peut pas faire de miracle, mais est-ce qu'on constate que ce nouvel entraîneur peut apporter des choses?
Alors, il y a deux choses dans la question. Il peut apporter des choses potentiellement, oui, parce que c'est un technicien sérieux, reconnu, réputé justement pour arriver à faire plutôt bien joué les équipes qui jouent à la base le maintien. Alors on va modifier un peu la perception, parce que Reims finalement jouait le maintien, son dernier club, et Reims s'est retrouvé dans le haut du classement, donc c'était plus que le maintien. Après, oui et non, puisque non, parce qu'il est quand même impuissant par rapport à la situation qui est colossale, hein. C'est un vrai courageux ou un vrai kamikaze, hein, David Guillon, sachant qu'il a un contrat, il avait un contrat de 6 mois jusqu'à fin juin, mais bon, le championnat s'arrêtera avant, que l'on peut reconduire, je crois, en cas de maintien. Et sinon, ben, il fera sûrement ses valises. Mais il a un des plus mauvais ratios aujourd'hui depuis qu'il est là, par rapport à l'histoire des entraîneurs du club. Mais chaque entraîneur qu'il y a eu avant lui a eu le pire ratio de l'histoire du club à un moment donné. Voilà. Donc c'est un garçon très sérieux. Mais est-ce qu'il y a des mots justes à trouver? Est-ce qu'il y a encore des leviers? Ça, c'est la grande question. On pourra en reparler dans 3 semaines, si ça a marché ou pas. Mais c'est une mission colossale. Il fait ce qu'il peut. C'est un garçon sérieux. Après, moi, j'ai quelques doutes sur ses choix de joueurs ou de système de jeu en cours de match. Ça reste encore une fois mon humble avis, mais je pense qu'il fait des choix trop tardifs et entrer des joueurs peut-être un peu plus frais, un peu plus explosifs et plus jeunes. Il les fait rentrer peut-être trop tard dans la partie et je trouve que c'est préjudiciable. Alors parfois il a fait de bons coups où justement il a pu faire rentrer des joueurs qui ont apporté quelque chose, mais je pense qu'à la 20 minutes de la fin ou 10 minutes de la fin, c'est trop juste et je ne sais pas s'il a les leviers.
C'est un entraîneur qui a aussi une qualité que j'ajouterais, c'est l'humilité. Hein, c'est qui, parfois, certains entraîneurs ne semblent pas du tout remettre en cause certains choix. Ça semble pas être son cas. Ce que je constate, c'est que Petkovic, avant lui, l'ancien sélectionneur de la Suisse, n'a pas réussi à faire mieux. Mon impression, c'est que depuis Gustavo Poyet, qui est parti pour des raisons plus extra-sportives que sportives, il n'y a pas eu vraiment d'entraîneur qui est matché avec le projet du club et au discours duquel les joueurs aient vraiment adhéré. Quoi. Donc c'est vrai qu'il y a un problème qui dépasse largement David Guillon et depuis assez longtemps au Girondin.
Et au final, Jean, c'est quoi le projet du club? Voilà, la question elle reste entière parce qu'on ne sait plus. En fait, tout a changé dans ce club. Depuis des années, on a parlé du stade. Depuis 2015, même le stade a changé. Les présidents, il y en a eu plusieurs. Les entraîneurs, il y en a eu plusieurs. Des joueurs, il y en a eu plusieurs. Tout a changé et finalement, c'est de pire en pire. Donc quel est le projet du club? Grosse question.
On voit aussi que le club a essayé de faire venir des nouveaux joueurs, soit des prêts, soit des transferts. Par exemple, le capitaine, Guy Lavogui, Eli Signatenko. Est-ce que ces joueurs, ils ont donné un nouveau souffle à l'équipe?
Je pense que Elis, notamment lors de son arrivée, Albert Elis, effectivement, a quand même apporté quelque chose. Il a marqué des buts, il a été très décisif. Moi, je l'ai trouvé encore meilleur lorsqu'il était sur un côté, hein, où il faisait vraiment des différences énormes. Signatenko, le malheureux, le contexte est quand même très, très compliqué pour lui. Hein. On rappelle qu'il est ukrainien. Donc forcément on imagine bien qu'il a eu quand même du mal à se concentrer sur le football. Il a cependant montré lui aussi de très belles choses, hein, son poste de milieu relayeur. Et pour ce qui est de Guy Lavogui, c'est un petit peu mitigé parce que grosse expérience, joueur international quand même, qui arrive avec des références. Pour moi, il n'a pas apporté tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il devait apporter. Mais finalement, ces trois-là sont symboliques aussi de cette espèce de guigne un peu bordelaise. Albert Ellis s'est blessé assez longuement. Yatenko, pour les raisons qu'on a exposées, ne peut pas être à 100% sur le football. Guy Lavogui n'arrive pas à confirmer complètement. Voilà, ils sont effectivement symboliques du recrutement bordelais. Pas des mauvaises idées en elles-mêmes, mais des contextes compliqués à chaque fois. Quoi.
Oui, et il y a peut-être une satisfaction, hormis ce dimanche où je trouve qu'il est passé à travers, c'est Amedodzic, qui est plutôt régulier depuis qu'il est arrivé aussi. Un joueur qui incarne les valeurs bordelaises, qui mouille le maillot, parce que c'est important pour les supporters aussi. Bon, il n'a pas été en réussite face à Nice, mais à peu près comme tous les autres. Et il y a eu aussi l'achat de Marcelo, qui est peut-être un flop aussi, Franz Sergio qui a été acheté aussi un flop, voilà. Mais sur les prêtés, je pense que vraiment Amedodzic pour l'instant répond bien, et Guy Lavogui, juste il a été recruté pour jouer milieu de terrain et aujourd'hui il joue défenseur central, il fait ce qu'il peut je crois, mais je crois qu'on voit aussi les joueurs qui arrivent à Bordeaux, bah, ils se fondent malheureusement dans le moule, j'ai l'impression qu'ils sont tirés vers le bas quoi.
On peut lire aussi dans la presse des interrogations sur la place des supporters dans le projet du club. J'ai pu entendre parfois des collègues s'étonner de voir les ultras soutenir leur club coûte que coûte quand on voit d'autres clubs où les supporters peuvent être plus sévères ou vraiment siffler les joueurs pour leur montrer que, bon là, sur ce match, ils sont pas contents de ce qu'ils ont vu. Quelle est la relation des ultras marines avec le club actuellement ?
Alors c'est compliqué de généraliser parce qu'il y a eu, il y a effectivement une ferveur incroyable de la part des ultramarines notamment, parce qu'ils ne sont pas les seuls supporters des Girondins et ils ne sont pas toujours les plus nombreux non plus. Mais ils sont toujours là depuis 1987, ça c'est important, ils soutiennent. Bon, c'est vrai que siffler, insulter au bout d'un moment, bon, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure formule. En revanche, il y a quand même une grosse fracture depuis le match face à Montpellier où un des leaders a eu une altercation avec Benoît Costil en plein match, a limite fait un frontal tête contre tête et ça a beaucoup divisé la communauté. Et je pense que ça a été très préjudiciable parce qu'il y a le fond et la forme. Sur la forme, c'était pas possible de voir ça. Après que les supporters chahutent, les joueurs, dans le sens bon enfant, entre guillemets, ou même un peu plus fermement, ça fait partie du jeu. On est à Bordeaux, c'est-à-dire que les voitures ne brûlent pas, c'est bien. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut le dire, les supporters, ils sont toujours là. Mais je trouve que depuis Montpellier, il y a une fracture, même si ça s'est un peu adouci depuis 2-3 matchs, qui, à mon avis, a vraiment fracturé l'unité du peuple bordelais. Et ça, c'est dommageable.
En tout cas, à son arrivée, Gérard Lopez a pris grand soin de ménager les supporters, notamment les ultras, de nouer des liens avec eux. Je pense aussi que, d'une certaine manière, ça porte ses fruits aujourd'hui. C'est-à-dire que ça n'est pas pour rien dans le fait que les ultras, enfin d'ailleurs l'ensemble du virage sud, soutiennent encore aujourd'hui les Girondins de Bordeaux. Moi, quand même, de manière générale, je les trouve assez admirables. Ils étaient encore très très nombreux dans le virage sud aujourd'hui. Ils ont poussé tout le match, franchement. Il n'y a pas eu de fausses notes, il n'y a pas eu de sifflet, y compris contre Costil, peut-être à l'entrée de Franck Sergio. Donc, mais honnêtement, ils ont poussé tout le match et ils ont beaucoup de courage et beaucoup de mérite. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently closing their bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching a handkerchief. Quietly turning the back door key, stepping outside, she is free.
Une dernière question, vous êtes tous les deux journalistes et vous suivez ce club depuis plusieurs années. Je pense qu'on peut aussi dire que vous y êtes attachés personnellement. Comment on suit un club en difficulté comme ça, en essayant de rester, vous l'avez dit, neutre, honnête?
Avec une boîte de mouchoirs qui peut servir à chaque match. Je dis même pas à chaque entraînement, puisqu'on n'a quasiment plus le droit d'y accéder non plus et d'y assister. Donc c'est en presse écrite, c'est moins grave pour moi, mais les confrères qui doivent tourner des images vidéo, télé, c'est très dur. Donc je crois que la dernière conférence de presse, il n'y avait que 6 journalistes. Voilà. Il faut aussi se remettre en question. Les conférences de presse sont à 9h le matin, c'est compliqué. Voilà, donc oui, on suit le club, on a un affect. Bon, moi, je suis né à Bordeaux, je veux dire... voilà, donc c'est sûr que j'ai 47 ans, ça fait 40 ans que je suis le club, ça fait 20 ans en tant que journaliste. Ça fait mal. Après, comme je le disais tout à l'heure, on essaie d'être le plus objectif possible, mais c'est très dur et... Voilà, il faut essayer d'être, je pense, oui, le plus juste possible. Et c'est pas facile à chaud. Puis on a souvent l'impression de faire l'analyse du même match, en fait. Si c'est pas toutes les semaines, c'est tous les 15 jours. Donc de se répéter aussi. Et c'est très compliqué. Et je vous cache pas que c'est un exercice un peu éprouvant. Alors ça reste que du foot. Il y a des choses plus graves en ce moment. On a parlé de Niatchenko qui vit une période difficile en Europe. Mais c'est aussi peut-être un peu plus que du foot, puisqu'on l'a aussi dit, à Bordeaux, il risque d'y avoir beaucoup de gens sur le carreau si ça se passe mal.
À titre personnel, j'ai jamais dit quelle équipe je soutenais. Mais il était évident de toute façon que, en le suivant, Bordeaux, pour ma part, pour la 7e saison, ça fait moins longtemps que Laurent, mais malgré tout, ça fait un petit moment quand même. Forcément, c'est un club auquel je suis très attaché. Et puis, même en prenant un peu de recul, c'est un monument du football français. Enfin, c'est pas trop de le dire. Il y a eu évidemment des heures, notamment européennes. Laurent parlait de ses émotions dans un des podcasts lors de la campagne européenne qui a vu Bordeaux échouer en demi-finale face à la Juventus de Turin en Ligue des Champions, en Coupe des Champions à l'époque. Il y a eu une dizaine d'années plus tard, évidemment, ce match retour face à l'AC Milan et cette finale face au Bayern Munich en C3, cette fois en Coupe de l'UEFA. Bon, forcément, on parle quand même d'un grand, grand nom du foot français. Et que l'on soit supporter de Bordeaux ou pas, c'est un peu comme quand Saint-Etienne est descendu. Je pense, quand on aime le foot français, il y a forcément une part d'affect qui est liée à ce club et on n'a pas envie de voir disparaître un tel club qui a vu passer tellement de noms prestigieux. Ouais, forcément, c'est un peu difficile pour nous qui le suivons de manière très régulière de voir ce club dans cet état.
Avec une autre difficulté dans ces situations un peu de crise, c'est de traduire aux lecteurs, aux auditeurs, ce qui se passe, parce que, par exemple, le président ou le coach ou les joueurs ne peuvent pas vraiment nous dire autre chose que oui, on y croit, oui, on va tout faire pour, même si on sent bien que sur le terrain, tout n'est pas forcément réuni pour que ça se passe. Comment on fait pour essayer de trouver le juste milieu?
Ben, on relaie aussi cette parole-là, parce qu'il y a des contre-exemples, et aujourd'hui il y avait Christophe Galtier qui était sur le banc de Nice, et il incarne parfaitement ce type de contre-exemple, parce qu'avec Lille, ils étaient vraiment au bord du précipice, Lille qui est aussi un grand club du foot français, ils étaient au bord du précipice il y a 3-4 saisons, et ils se sont sauvés sur les 3 dernières journées, et l'année suivante, par ailleurs, ils ont été champions. Alors on ne peut pas imaginer un tel destin pour Bordeaux, aujourd'hui c'est un peu tôt, mais en tout cas, c'est la preuve que c'est jamais fini, tant que voilà, tous les matchs ne sont pas joués. Donc on essaye aussi de faire passer ce message-là, parce que c'est un message qui est vrai et qui est juste. Maintenant, il y a une question de dynamique, et la dynamique, je pense qu'on commence tous les deux à avoir une certaine expérience du football avec Laurent, la dynamique, on la sent clairement pas un changement de vent, quoi. Pour moi, les vents sont contraires et ils le resteront. Alors c'est une forme d'impression, mais de toute façon, il n'y a pas d'objectivité journalistique, on aurait beaucoup de choses à en dire, mais donc certainement dans nos papiers, dans ce que l'on dit à l'antenne d'Europe 1, pour moi, forcément, ça doit se ressentir, parce qu'on ne va pas raconter non plus n'importe quoi aux personnes qui nous écoutent, quoi.
Je vais utiliser un poncif, hein, je ne vais pas dire l'important, c'est les 3 points, hein, mais tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir, c'est vrai. Il n'empêche qu'à Bordeaux, aujourd'hui, je pense que personne n'est dupe. Et voilà, on l'a dit tout à l'heure, il faut continuer à y croire, puisque mathématiquement, c'est possible. Mais personne n'est dupe, et je pense que les gens qui suivent le club, de près ou de loin, ont senti venir ça depuis le vent du boulet, ils l'ont senti depuis 3-4 saisons, depuis la passation de pouvoir entre M6 et les successeurs. On a senti que ça déclinait, même depuis un peu plus longtemps. On peut dire même depuis la période post-Laurent Blanc, titre de champion de France. Il y a eu une Coupe de France en 2013, mais on sentait déjà. Alors c'était juste au niveau sportif, il y avait encore des joueurs qui incarnaient le maillot, parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Les joueurs du CRU, ils ne jouent pas. Le club sur le maillot, c'est encore marqué Bordeaux-Girondins. Sur la veste de survêt, c'est Girondins de Bordeaux, mais sur le maillot, c'est Bordeaux-Girondins. Pour moi, tout est résumé là-dedans.
Ouais, c'est l'ancien nom, hein, qu'avait choisi la direction américaine pour mieux mettre en valeur Bordeaux à l'international notamment. Alors on est revenu effectivement à l'ancien logo et au nom de Girondins de Bordeaux, mais c'est vrai que c'est symbolique. J'ajouterai juste une petite chose, bien évidemment il y a des choses beaucoup plus graves. On parle de l'Ukraine, comme tu le disais tout à l'heure, il y a vraiment dans l'actualité des choses beaucoup plus graves que cela. Cependant, c'est vrai qu'il faut avoir une pensée pour les salariés, parce qu'ils ne vont pas rester aussi nombreux si le club descend en Ligue 2, ça c'est une certitude. Et il faut aussi pas oublier une chose, et tu y as fait allusion tout à l'heure, Laurent, c'est vrai que le club de Bordeaux, c'est le seul club professionnel de la région Nouvelle-Aquitaine à évoluer dans l'élite, parce qu'il y a d'autres clubs professionnels, hein, je pense par exemple à Niort ou à Pau, mais Bordeaux est le seul à évoluer en Ligue 1, et ça fait que Bordeaux est quand même très populaire, que finalement de la Charente, enfin des deux Charentes d'ailleurs, jusqu'au Pays Basque et évidemment le Béarn et tout ça, c'est dans l'ancienne Aquitaine en tout cas, les Girondins de Bordeaux sont très populaires sur tout ce territoire-là. Ça fait quand même près du quart de la France. Ça fait que c'est aussi un peu toute une région qui est affectée par cette situation. Et au moment même où l'un des adversaires de Toulouse, effectivement, le TFC Toulouse, est en train de revenir. Il y a moins de rivalité avec le TFC qu'avec Marseille, par exemple. Mais ça reste quand même un ennemi qu'on aime bien à six côtés. Bon, voilà, c'est le parallèle est un peu difficile pour les supporters bordelais.
Merci Jean-Berthelot de la Gletté, merci Laurent Brun. Nous referons un bilan de cette saison, vous l'avez compris, très compliquée pour les Girondins de Bordeaux, d'ici 3 semaines, c'est-à-dire à la fin de la saison.
Merci Juliette Chénion, c'est la fin de cet épisode de Podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara Etchari, Myrène Garay-Coetchea, Mathilde Leloy et Marion Ruot. Iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Taïeb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou Google Podcasts. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free
or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.